Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Laetitia De Witt.
Madame, Monsieur, bonjour. Le personnage de Marie-Antoinette a toujours fait l'objet de multiples interprétations. Pour certains, elle ne fut que l'Autrichienne enfant gâtée, frivole et dépensière. Pour d'autres, elle fut victime de sa jeunesse, d'un époux qui ne s'intéressait pas à elle et des coteries versaillaises. Pour d'autres encore, elle ne révéla sa vraie valeur qu'aux heures les plus sombres de son existence. Où se situe la vérité? Qui était vraiment Marie-Antoinette? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Madame Evelyne Levert. Madame Levert, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de Canal Académie. Vous êtes historienne, chercheure au CNRS, spécialiste de l'Ancien Régime et en particulier de Marie-Antoinette, à laquelle vous avez consacré plusieurs ouvrages. À partir du 15 mars prochain, le Grand Palais consacre une exposition à Marie-Antoinette. Faut-il dire encore, ou enfin, celle qui fut pour ainsi dire la dernière reine de France, n'est-elle pas déjà bien connue des Français?
Vous savez, votre question me fait sourire parce que oui, elle est bien connue depuis longtemps. Et je vous dirais, sans être vraiment un vieillard, que j'ai vu une exposition sur Marie-Antoinette en 1955. Je n'étais pas très vieille, mais enfin, je m'en souviens. Et à ce moment-là, on semblait encore redécouvrir Marie-Antoinette. Marie-Antoinette est un personnage que finalement les Français n'ont jamais quitté. Et je dois dire que tout d'abord, il y a deux traditions. Vous avez la tradition royaliste qui a fait de Marie-Antoinette une sainte, une martyre et en quelque sorte le porte-drapeau de la monarchie. Et puis vous avez une tradition républicaine qui est parallèle à cette tradition, c'est la mauvaise reine qui a vraiment mal influencé son époux et qui a conduit à la Révolution, qui n'a jamais admis la Révolution et qui est responsable du sang des Français qui a coulé. Et ces deux traditions se sont perpétuées tout au cours du XIXe siècle et on peut dire au cours du XXe siècle. Puis on a commencé, disons, vers le milieu du XXe siècle à essayer de redonner à Marie-Antoinette sa place réelle dans l'histoire. Ça a été en particulier l'œuvre de Pierre de Nolhac, qui a été le premier grand conservateur de Versailles. Et puis il y a eu un livre aussi de Stefan Zweig, juste avant la guerre, et ce livre était écrit par, évidemment, l'un des plus grands romanciers, l'un des plus grands penseurs de langue allemande et qui a redonné à Marie-Antoinette alors une dimension, je dirais, tout à fait humaine. Ce n'est plus tellement la reine, c'est la femme. Et Zweig, étant un disciple de Freud, eh bien, il a revu les choses dans un ordre différent et il a été le premier à voir que Marie-Antoinette avait une sexualité perturbée et disons que c'est le fondement, si vous voulez, de l'interprétation psychologique qu'il a donnée de Marie-Antoinette. C'est un livre qui reste un très beau livre, très intéressant. Et puis, après la guerre, il y a eu encore d'autres biographies de Marie-Antoinette qui ont été plutôt dans le sens de Marie-Antoinette, femme charmante et femme victime. Et puis, je m'aperçois aujourd'hui qu'on redécouvre Marie-Antoinette de façon tout à fait différente avec le film de Sofia Coppola. Il faut dire que je suis à l'origine de ce film. Enfin, je ne voyais pas Marie-Antoinette, évidemment, comme l'a vu Sofia Coppola. Et là, nous sommes, nous, Français, nous, Européens, nous vivons dans une période où il y a le mélange des genres, où on est dans la frivolité et dans l'immédiateté. Et Sofia Coppola, qui est, elle, une jeune Américaine qui ne connaît pas du tout l'histoire française et qui connaissait pas du tout l'histoire de Marie-Antoinette, a projeté ses fantasmes sur Marie-Antoinette et je crois que elle a projeté les fantasmes d'une certaine jeunesse aujourd'hui dans Marie-Antoinette. Et je me dis que finalement, Marie-Antoinette est une femme miroir et chaque époque reporte ses fantasmes sur Marie-Antoinette. Elle réfléchit les fantasmes d'une époque. Et on peut interpréter exactement Marie-Antoinette comme on veut.
Comme
et c'est
on en veut, même en temps. En fonction des époques.
En fonction des époques. Et je dirais que c'est assez étonnant. Et cette réflexion m'est venue très récemment à cause des surprises que j'entends lorsque l'on parle, eh bien, de ce qu'était Marie-Antoinette, parce que vous savez bien que c'est à moi qu'on apprend qui était Marie-Antoinette. Alors, ça m'amuse toujours beaucoup et je me dis donc, Marie-Antoinette est un miroir.
Et oui, il faut peut-être préciser à nos auditeurs, parce que ça fait longtemps que vous vous consacrez à Marie-Antoinette.
Oui, je la connais depuis quelques décennies.
Votre première biographie, grande biographie consacrée à Marie-Antoinette est parue en 1991 chez Fayard.
Oui.
Et depuis, donc, vous avez continué, entre autres avec un livre sur l'histoire de la fameuse affaire du collier.
Oui.
Le vrai faux journal de Marie-Antoinette, j'ai envie de dire, qui vient d'être réédité là, aux éditions Talendier. Voilà, dans la collection Texto. Et donc, personne mieux que vous, actuellement, la connaît, en tout cas.
Ben, peut-être. Et d'ailleurs, avant Marie-Antoinette, j'avais écrit Louis XVI. Et je dois vous dire que je connais Marie-Antoinette, je dirais un peu depuis toujours.
Bon, on va d'ailleurs se pencher un peu plus sur le personnage. Donc, Marie-Antoinette se marie en 1770. Elle a 14 ans. Au Dauphin, donc le futur Louis XVI. Et comment est la jeune fille qui arrive en France?
C'est une jeune fille qui a beaucoup de charme. Sa mère dit « Dieu vous a donné quelque chose d'exceptionnel qu'il faut conserver ». C'est le charme. C'est vraiment, je crois, ce qui la caractérise tout d'abord. C'est une adolescente qui est pétulante, qui aime s'amuser, qui a une éducation intellectuelle qui n'est pas élaborée du tout. Elle est fine, elle sent très bien les êtres, elle a un certain sens de la psychologie, elle sait qui elle est et elle sait qu'on lui doit le respect. En même temps, c'est une jeune fille qui est sentimentale et qui aime les joies de l'intimité et la vie de famille. Et lorsqu'elle arrive à Versailles, eh bien, elle ne trouve pas véritablement une famille unie comme celle qu'elle a quittée à Vienne, si bien qu'elle a, je dirais, un certain spleen, parce que si on commencera à parler de spleen à cette époque-là, c'est-à-dire un certain vague à l'âme.
Un mal de vivre.
Oui. Non, vague à l'âme, parce que le mal de vivre.
Nostalgie de son pays, en tout cas.
Nostalgie de son pays et surtout nostalgie d'une ambiance chaleureuse. C'est ça.
Mais dès le départ, on a l'impression que sa mère, donc Marie-Thérèse, se montre quand même inquiète de lâcher sa fille dans cette cour de France à Versailles.
Oui. Et elle ne l'a pas avertie.
Et elle n'est pas préparée.
Elle n'y est pas préparée parce que Marie-Thérèse savait très bien que Louis XV vivait avec Madame du Barry, mais elle lui dit « Vous trouverez un grand-père attentif et tendre, etc. » Et elle se rend compte que le grand-père, eh bien, est un monarque libertin qui aime bien sa famille, mais enfin qui vit un petit peu en dehors avec sa maîtresse. Et elle est ulcérée parce que la maîtresse, eh bien, usurpe un peu son rôle de dauphine, c'est-à-dire de première dame du royaume. D'autre part, Marie-Thérèse lui avait dit qu'il y avait quantité de pièges qui seraient tendus et elle essaye de la mettre en garde par une correspondance qu'elle engage avec elle et elle lui met un mentor qui est son propre ambassadeur, le comte de Mercier Argenteau. Mais Marie-Thérèse, certes, souhaite le bonheur de sa fille, mais Marie-Thérèse veut surtout que le mariage avec le dauphin soit consommé, parce que c'est bien sûr un mariage politique, et Marie-Thérèse est avant tout, c'est une mère certes, mais cette mère est un chef d'État, et tous les membres de sa famille doivent servir l'auguste maison de Habsbourg. Alors les fils en jouant un rôle politique qu'elle leur assignera, et les filles par leur mariage, Marie-Antoinette et l'archiduchesse, qui est le gage de l'alliance la plus extraordinaire que Marie-Thérèse ait conçue, c'est-à-dire l'alliance avec, je dirais, entre guillemets, l'ennemi héréditaire, qui est la France. Il faut donc que le mariage soit consommé. Or, ce mariage n'est pas consommé.
C'est un des problèmes.
C'est
voilà.
Un problème qui est un problème
qui
intime,
on
dirait intime, mais pas du tout. C'est un problème politique, voire un problème international.
Oui,
parce qu'on se dit, après tout, si le mariage n'est pas consommé, on peut toujours renvoyer l'archiduchesse dans ses foyers à Vienne. Et il se trouve que le dauphin, le futur Louis XVI, a été élevé dans l'hostilité à l'alliance que son grand-père a conclue avec Marie-Thérèse, et sa femme est le gage de cette alliance. Alors, c'est un garçon inhibé, qui ne connaît pas les femmes, qui a peur de tout ce qui touche au sexe, et en plus, on lui met dans son lit une jeune fille charmante qui représente ce qu'on lui a défendu. Voilà, c'est un peu compliqué.
C'est un peu compliqué.
Et ça le deviendra encore davantage, et elle fuira cet époux qui n'est pas à son goût et qui ne se conduit pas comme un verre. Alors, on peut dire, si on veut vraiment pousser les choses, que n'ayant pas su faire de sa femme tout de suite, il n'en a pas fait vraiment une Française et qu'elle est restée, qu'elle n'a pas rompu le cordon ombilical avec l'Autriche.
Oui, parce qu'elle va toujours... Donc, sa mère et c'est donc son ambassadeur, le comte Mercy d'Argenteau, vont tenter de pousser Marie-Antoinette à jouer un rôle politique. Voilà. Chose à laquelle... qui ne l'intéressait pas, tout simplement. Non, elle préférait...
Elle veut s'amuser.
Elle veut s'amuser,
elle veut s'amuser,
se distraire.
Elle aurait trouvé un mari aimant, elle aurait eu des enfants. Ça aurait été tout à fait différent. Mais n'ayant pas cela, elle veut se distraire et elle se noie dans un tourbillon de plaisir en tant que dauphine, puis en tant que reine.
Voilà, puisqu'en 1774, Louis XV meurt
et Louis XVI monte sur le trône. Mais pendant tout ce temps, sa mère lui écrit et l'ambassadeur et sa mère correspondent. Disons que le thème général, il faut absolument que Madame la Dauphine, que Sa Majesté la Reine ensuite, s'empare de l'esprit de Monsieur le Dauphin, s'empare de l'esprit du roi.
Il juge assez faiblement d'ailleurs.
Voilà, oui, les jugements sont très, très durs, très négatifs à l'égard du Dauphin. Et Mercy Argenteau, qui était là pour expliquer à la princesse qu'elle devait respect au roi, qu'elle devait être une bonne épouse et sa mère aussi, en même temps lui font comprendre qu'elle lui est supérieure. C'est extrêmement troublant pour cette jeune personne, c'est extrêmement troublant, si bien qu'elle pensera toujours que sa mère, l'impératrice, et puis après son frère, l'empereur Joseph II, sont des souverains très supérieurs à son mari, qu'elle, on peut dire, elle ne veut pas dire qu'elle le méprise, mais qu'elle juge d'assez haut. Et ça crée dans le couple, bien entendu, des tiraillements, et ça crée dans son attitude politique, des hiatus extrêmement gênants, car
elle
reine
sera toujours de parti pris.
Elle prend toujours le parti, pensant que son mari n'est pas à la hauteur. Et là, ce n'est pas de la médisance que de le dire, car il faut reprendre les lettres qu'on lui adresse et les lettres qu'elle envoie. Et elle dit toujours, mon mari est un brave homme, mais il est faible, il ne comprend pas et il est mal conseillé par ses ministres. Et elle fait des scènes aux ministres. Et Louis XVI, qui gouverne, du moins en politique extérieure, extrêmement intelligemment, car Louis XVI commet des erreurs à l'intérieur, mais à l'extérieur, il a une politique qui est parfaitement réfléchie et, je répète, intelligente. Eh bien, Louis XVI ne cède pas à sa femme, mais on croit qu'il lui cède parce qu'elle se permet de faire des sorties assez intempestives.
Oui. Mais petit à petit, elle va réussir à s'investir en politique. Alors, premièrement, il faut qu'on ait une première étape, c'est que finalement, ce mariage va être consommé au bout de 8 ans de mariage. Un premier enfant né, une fille, malheureusement, je dirais, puisque tout le monde attend un dauphin.
Oui, mais enfin, ça ne change pas grand-chose. On voit que le mariage est consommé.
Voilà, donc ouf. Et 2 ans plus tard, un dauphin arrive.
Oui, mais déjà, Marie-Antoinette est impopulaire.
Mais déjà, voilà.
Elle est impopulaire. Elle s'est rendue impopulaire, disons, par l'insoutenable légèreté de l'être qu'elle représente. Car on lui reproche de ne pas se conduire en reine. Elle a revendiqué immédiatement le droit de mener une vie privée, alors que jusque-là, les souverains, et surtout les souveraines, vivaient en public et on savait à n'importe quelle heure du jour ce que faisait la reine. Elle devait être avec telle et telle personne à tel endroit, etc., etc. Rien de tout cela avec Marie-Antoinette. Elle se retire dans ses appartements, elle se retire dans son Trianon. Et là, on jase beaucoup parce qu'elle est toujours entourée d'une petite coterie de favoris. Par exemple, lorsqu'elle a eu la rougeole, il y avait 4 gentilshommes absolument charmants qui se relayaient à son chevet et elle ne recevait pas les dames. Vous imaginez bien que ceci a été monté en épingle et elle passe pour une femme légère, donc son mari passe pour un impuissant couronné, et qui dit impuissant sexuellement, car on avait l'habitude de rois qui avaient une sexualité, je dirais, débordante, qui dit impuissant sexuellement dit impuissant politiquement. Vous voyez comment on glisse. Donc, son image à elle retentit sur celle du roi. Louis XVI passe pour cela. Ensuite, elle passe pour une femme dépensière, c'est vrai. Enfin, elle dépense énormément pour sa toilette, etc.
Ses bijoux.
Enfin, disons que c'est, on le sait, et cela fait extrêmement mauvais effet. Et puis, alors, donc, elle passe pour l'Autrichienne, puisqu'elle fait le salaire. Vous voyez, c'est une image qui devient de plus en plus lourde au fil des années.
D'ailleurs, elle s'en inquiète, puisqu'elle, une de ses activités, entre guillemets, préférées, c'est d'aller à l'opéra. Et au début, elle était acclamée à chaque apparition à l'opéra à Paris, et à la fin, elle est huée.
Oui.
Donc, elle n'ose presque plus sortir,
elle
est traumatisée par ça.
Elle est traumatisée, mais si vous voulez, il y a un réveil qui est assez tardif.
Mais petit à petit, donc, elle arrive quand même à pousser par la cour d'Autriche et surtout par Merci. Elle va vouloir s'investir en politique quand même. Oui. Puisqu'à la veille de la Révolution, elle est déjà plus présente.
Vous avez tout à fait raison. C'est au moment où elle est la plus impopulaire, après la fameuse affaire du collier. En 1787, Louis XVI a perdu ses principaux conseillers, en particulier son ministre des Affaires étrangères, Vergennes. Il est complètement désemparé et aujourd'hui, on dirait qu'il est complètement dépressif. Il traverse une phase de dépression, il ne sait plus à quel saint se vouer et curieusement, il va se rapprocher de sa femme et s'appuyer sur elle. Et elle fait une entrée en politique à un moment dramatique, un moment dramatique, au moment où la France est menacée par la banqueroute, où le roi ne sait plus à quel saint se vouer, et la femme la plus impopulaire du royaume devient le principal conseiller de son mari. Et elle se forge très très vite la culture politique qu'elle n'avait pas. Et comme elle n'a pas de culture politique, elle va évidemment vers ce qu'elle connaît, c'est-à-dire la défense de la tradition. Et c'est au moment où justement la révolution va se mettre à gronder. Et son attitude sera d'être contre tout ce qui peut ébranler l'ordre établi. Et tout de suite, elle adopte une attitude qui est une attitude de durcissement par rapport à la vague révolutionnaire qui monte. Et ses conseils au roi seront toujours des conseils de fermeté, certes, mais des conseils qui seront ultra conservateurs.
Pour défendre sa famille, les siens.
Oui, mais avant de défendre la famille et les siens, pour défendre son idée de la monarchie, car elle a une idée de la monarchie quand même. Et la monarchie pour elle ne peut être qu'absolue et traditionnelle. C'est plus facile de voir les choses comme ça, de les comprendre comme ça. Les choses ne doivent pas bouger, alors que les choses sont en train de bouger. Oui, et elles bougent, comme vous le savez, très sérieusement.
Donc 1789 arrive. Au fur et à mesure, on a l'impression que Louis XVI s'efface et que Marie-Antoinette rentre en scène et de plus en plus présente.
Oui, d'ailleurs, les ministres viennent la voir parce qu'ils ont l'impression que le roi, enfin, ils le disent tous, que véritablement le roi leur échappe, ils ne savent plus. Et elle a quelque chose qu'il n'a pas. Elle a une énergie et une force de lutte. Elle se révèle, cette femme qui était frivole, elle se révèle forte. Mais elle n'a pas les capacités pour gouverner.
Le bagage.
Elle n'a pas le bagage politique et elle n'a pas non plus l'intuition politique de ce qu'il faut faire. Vous allez me dire, c'est très simple de dire ça aujourd'hui, mais on s'en rend compte, si vous voulez, dans cette correspondance, parce qu'elle reçoit quand même quelquefois des conseils qui ne sont pas de mauvais conseils.
Donc en 1790, c'est elle qui va être à l'origine de la fuite du roi, enfin de la famille royale vers Varennes.
Oui, mais en réalité, pourquoi ce départ? Bon, parce qu'il y a une situation qui est très difficile. Le roi, la reine aux Tuileries s'estiment prisonniers. Ils ont été conseillés par Mirabeau. Mirabeau vient de mourir. La constitution est sur le point d'être achevé. Et cette constitution, alors on peut se disputer beaucoup là-dessus, mais enfin, cette constitution, le roi la réprouve, et elle aussi, bien entendu. Et avant de ratifier cette constitution, et dans la constitution, il y a la constitution civile du clergé qui est l'aspect religieux de la constitution, avant de ratifier cette constitution, Louis XVI fait une tentative. Il fait la tentative d'être l'arbitre entre ses sujets et lui. Et pour être l'arbitre entre ses sujets et lui, il ne peut pas être semi-prisonnier à Paris. Il faut donc qu'il soit auprès de troupes sûres et ils s'en vont vers Montmédy où il y a le général de Bouillé. Ça va être la fuite. Bon, et ils seront arrêtés à Varennes, non loin, et là, il y avait un moyen tout à fait de s'en sortir, mais non loin de Montmédy. Et après cela, lorsque la famille royale revient à Paris dans des conditions qui sont véritablement dramatiques, eh bien là, Louis XVI apparaît comme un parjure et son épouse comme la femme qui l'a entraîné vers le mal. Et on arrive dans une période où il y aura, disons, un staccato d'angoisse et avec la guerre extérieure, et là, on voit bien que la famille royale, et la reine en particulier, n'attend son salut que des armées étrangères qui viendront au secours du roi pour le rétablir dans ses pouvoirs d'antan.
Mais parallèlement, pourtant, Marie-Antoinette va quand même avoir des contacts avec les partisans d'une monarchie constitutionnelle.
Bien sûr, elle joue double jeu.
Elle joue double jeu, c'est très étonnant. Et sa correspondance
avec
Barnave est tout à fait intéressante.
Oui. Mais sa correspondance avec Barnave doit être lue, et c'est comme ça que je l'ai publiée, en même temps qu'elle écrit une chose à Barnave et elle est obligée d'écrire à Fersenne et à Mercier-Argenteau, qui n'est plus à ce moment-là en France, et encore
pour
à son frère, pour leur dire « j'ai été forcée de dire au roi d'accepter la Constitution, mais bien entendu, nous réprouvons ce que nous avons fait, nous n'attendons de secours que de vous, etc. » Donc, quand vous mettez toutes ces lettres en perspective, vous vous apercevez qu'elle berne complètement Barnave, qui lui est totalement sincère.
Tout à fait.
Voilà.
Sa position n'a pas bougé.
Sa position ne bouge pas. Sa position ne bouge pas. Elle se rapproche de ce qu'elle considère comme un révolutionnaire dur qui n'est en réalité qu'un modéré, mais elle voit pas qu'il est modéré par rapport aux autres. Et sa position ne change pas. Ce qu'il faut, c'est au retour de Varennes que le roi soit rétabli. Et c'est un tour de passe-passe extraordinaire. Mais d'ailleurs, le cœur n'y est plus. On n'a plus confiance en lui.
Finalement, Louis XVI et Marie-Antoinette vont espérer qu'une seule chose, c'est la guerre.
La guerre, oui, absolument.
Qui va être déclarée, mais ne va pas leur apporter ce qu'ils souhaitaient, bien au contraire.
Oh, absolument. Et c'est ce qui précipite,
cette
guerre qui précipite la chute de la monarchie. Mmh. Eux ont tous leurs espoirs dans l'arrivée des armées étrangères, pour donc les rétablir, et... D'autre part, eh bien, ça sera le manifeste de Brunswick qui menacera Paris de subversion totale et qui déclenchera la fameuse émeute du
10 août 1792
et qui va mettre fin à la monarchie.
Et donc à l'emprisonnement de la famille royale. Donc après, comme on le sait, Louis XVI et Marie-Antoinette vont être jugés, guillotinés.
Alors il y a deux procès. Il y a celui du roi est un procès. Il y a quand même la base d'un procès véritable. Celui de Marie-Antoinette est un procès juridiquement inique.
Bon. Ou des arguments ont été utilisés
atroces. Mais je dis, je me place simplement du simple point de vue juridique, c'est un procès inique.
Et elle a montré d'ailleurs du cran et de la dignité jusqu'au bout.
Absolument. Un courage énorme.
Pour terminer, Evelyne Levert, le tragique du destin de Marie-Antoinette, qui est tragique dès le départ, puisque on la sent un peu perdue. Enfin,
bon, c'est pas la tragédie, là, encore.
A occulté un petit peu sa personnalité pour laisser place à un mythe.
Absolument. Mais ça, Stéphane Zweig l'avait bien montré, c'est finalement une femme moyenne qui s'élève au niveau de la tragédie.
Nous allons terminer sur ces quelques mots. Merci beaucoup Evelyne Levert pour ce portrait.
Merci à vous.
Nos auditeurs trouveront les références de vos différents ouvrages consacrés à Marie-Antoinette sur notre site. Au revoir et à très bientôt sur Canal Académie.